France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Recueillement et crainte à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne, les cours ont repris ce matin au collège de Louise. Cette fillette de 11 ans retrouvée morte poignardée ce week-end, mais pour l'heure, l'enquête n'a rien donné. Nous sommes sur place. À suivre encore le sommet pour l'intelligence artificielle qui se tient à Paris, cadre prestigieux du Grand Palais. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place pour Inter. Xavier, Emmanuel Macron promet d'accélérer.
Oui, 109 milliards d'euros d'investissement privé annoncé hier soir pour faire entendre une troisième voie entre la Chine et les États-Unis.
On verra ce qu'il en est précisément de ce financement et d'où viendront ces 109 milliards. Nous parlerons également de l'utilisation que nous faisons ici même à France Inter de l'intelligence artificielle et des limites que nous nous posons. Et puis à 13h50, notre feuilleton dans la ville de France la plus en avance sur l'intelligence artificielle, c'est Chartres. Les agents s'en servent pour rédiger des courriers, le maire pour écrire ses discours. Dans ce 13-14, nous serons également dans les calanques de Marseille, qu'il faut dépolluer, l'État a même été condamné pour cela. Nous serons auprès du Fort Boyard, monument bien connu des Français, qui affronte l'érosion. On se sert de maquettes pour préparer les travaux. À partir de 13h30, nous restons en mer avec celle que nous avons suivie pendant 3 mois dans ce 13-14 et que nous avons la joie d'accueillir à nouveau.
Hello France Inter, c'est Violette. Ça y est, j'ai bouclé mon tour du monde. Je vous donne rendez-vous à 13h30 sur la terre ferme, en direct des Sables d'Olonne. A tout de suite.
Violette d'Orange, après son arrivée triomphale hier au Sable d'Olonne avec nous, 01 45 24 7000 pour répondre à son appel et partager votre émotion de la retrouver, ce sera dans une demi-heure. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Depuis samedi, des habitants d'Épinay-sur-Orge au sud de Paris viennent déposer des mots et des fleurs devant le collège de Louise. Cette fillette de 11 ans avait disparu vendredi après-midi alors qu'elle rentrait chez elle après les cours. Son corps poignardé a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois tout près de son établissement scolaire sur la commune de Longjumeau. Le choc est énorme dans ces deux communes et ce matin, le retour en classe s'est fait sous haute surveillance car le ou les meurtriers n'ont pas encore été retrouvés. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. Erwan, la reprise est évidemment douloureuse pour les élèves comme pour leurs parents.
Oui, devant les portes du collège André Mauroy ce matin, toujours ces centaines de bouquets de fleurs blanches, des bougies ont été allumées. À midi, la sortie des classes s'est faite sous le regard appuyé des policiers présents depuis 8 heures ce matin, car l'auteur des faits court toujours et la psychose s'est installée dans les esprits des parents et des élèves, comme Lisea, en classe de 4e.
C'est pas simple de se dire que on n'est pas en sécurité, que ce soit dans la rue ou autre part en fait. Et c'est vrai que c'est dur parce que en fait, on se demande, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être notre famille, ça peut être mes amis, et voilà.
Maëlys, elle est en 3e, elle vient juste de recevoir par téléphone des consignes de sa mère.
Parce que je suis obligée de tout le temps, quelqu'un m'accompagne, me dépose et tout, ma mère elle a super peur maintenant. Oui. J'ai plus le choix de rentrer avec quelqu'un. Ça fait un peu peur quand même, genre de se dire qu'on a tué un enfant. En fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde, moi je pensais pas. Je me réveille, maintenant je pense que à ça.
Pour prendre en charge la douleur, répondre aux questions de ses élèves, parfois très choqués, une cellule d'écoute a été ouverte dans le collège, une autre dans la salle communale d'Épinay. Dans un communiqué, la mairie de Longjumeau, elle a remercié les parents d'élèves qui se mobilisent pour accompagner les enfants. Amine, lui, est venu récupérer son fils ce midi, quelques fleurs blanches à la main. Donc vous avez votre enfant qui est là?
Ouais, je l'attends là. Dans un premier temps, on ne réalise pas. Le petit connaissait la petite, donc voilà. Puis après, de l'énervement. Et puis après de l'inquiétude.
Dans la conséquence, comme beaucoup d'autres parents, il viendra chercher son fils au collège jusqu'à ce que l'auteur des faits soit retrouvé.
Merci Erwan Chassin en direct d'Épinay-sur-Orge avec les moyens techniques de Corentin Bailly. Le procès de l'attentat de la basilique de Nice qui avait fait 3 morts en octobre 2020 s'est ouvert ce matin. Brahim Aouissaoui, tunisien de 25 ans, est jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il affirme depuis sa mise en examen ne se souvenir de rien. Il avait ce jour-là tué 3 personnes, 2 paroissiennes et le sacristain. Cet attentat terroriste islamiste s'était déroulé 13 jours seulement après l'assassinat de Samuel Samuel Paty. Au moins 2 migrants sont morts ce week-end en tentant la traversée entre le Pas-de-Calais et le Royaume-Uni. Leurs corps ont été retrouvés hier sur une plage de Berck. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
230 migrants ont été secourus sur la seule journée d'hier.
Oui, il y a eu 6 interventions, 6 sauvetages successifs tout au long de cette journée de dimanche. À chaque fois, des tentatives de traversée qui échouent, bateaux surchargés, canaux dégonflés, appel à l'aide. D'après une source préfectorale, la météo d'hier, un peu moins tumultueuse que celle des jours précédents, a précipité nombre d'exilés vers les plages de la côte d'Opale. Même explication des acteurs sur le terrain. Ces acteurs qui viennent en aide aux migrants. Dany Patou, présidente de l'association Osmose 62.
Qui prennent de plus en plus de risques, même quand les conditions sont défavorables au niveau météo, ils le tentent quand même. C'est-à-dire que c'était mieux qu'avant-hier, c'était mieux que vendredi, c'était mieux que jeudi au niveau conditions. Ça reste très limite, ça restait très limite dimanche, mais on le tente quand même.
Et la répression s'est parallèlement accentuée d'après elle. Hélicoptères, drones, policiers, tout est fait pour dissuader les embarquements.
Il y a des moyens exponentiels de forces de l'ordre sur nos côtes. Ça met les personnes en exil dans des situations de danger extrême parce que plus il y a de nouvelles tentatives, plus il y a de monde qui essaie, plus les bateaux sont surchargés. Cette période, depuis un petit moment, c'est toujours la période du plus, du plus, du plus.
Et les migrants qui attendent autour de Calais, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer sont bien décidés, on le rappelle, à partir, à rejoindre le Royaume-Uni. La répression des départs n'a pour seul effet que de les différer, d'après les associations.
William Delesseux pour ses précisions. À Paris, l'homme interpellé la semaine dernière, après avoir blessé légèrement 3 policiers devant la préfecture de police de Paris, cet homme a été mis en examen. Il est notamment poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La France et l'Europe sont toujours dans la course à l'intelligence artificielle. Voilà le message que veut envoyer Emmanuel Macron à l'occasion du sommet sur l'IA qui se tient à Paris depuis la semaine dernière et en co-organisation avec l'Inde. Tout cela pour répondre aux Chinois et aux Américains qui ont pris de l'avance. Alors le président français a annoncé hier des investissements, plus de 100 milliards, alors qu'on a déjà du mal à boucler notre budget. On va voir comment c'est possible. Et puis le chef de l'État a décidé d'utiliser pour cela l'image prestigieuse de Paris à travers le monde. Xavier Demagny, on vous retrouve en direct du Grand Palais, entre la Seine et les Champs-Élysées à Paris, où vous vous trouvez. À quoi ça ressemble, Xavier ?
Eh bien Jérôme, le décor est majestueux, à la hauteur de l'enjeu, j'ai envie de dire, qui lui est monumental. Sous la grande verrière ici, on a une grande scène centrale entourée de quelques start-up qui présentent leurs innovations. Depuis ce matin, les tables rondes s'enchaînent avec des intervenants de choix, même si les plus grands noms comme le patron d'OpenAI, Sam Altman, pourtant présent à Paris, n'y participent pas. Alors ce n'est pas non plus la foule des grands jours, disons qu'il reste de la place dans le Grand Palais. Et puis un dernier détail, on sent qu'on est dans un événement tech, Jérôme, dont on peut constater la disproportion femmes-hommes. Vous savez que c'est un reproche très souvent fait à ce secteur.
Alors Emmanuel Macron a annoncé hier soir 109 milliards d'euros d'investissement. Ça paraît énorme. C'est de l'argent qui va être investi en France, investi par la France, de l'argent public ?
Non, ce sont, Jérôme, des investissements privés sur le sol français. Le montant global inclut des investissements d'ailleurs déjà annoncés ces derniers jours, des Émirats Arabes Unis d'abord, à hauteur de, alors la fourchette est large, 30 à 50 milliards, et puis 20 milliards d'euros aussi du fonds canadien Brookfield. Tout ça pour construire des data centers, ces énormes serveurs qui fournissent espace de stockage et capacité de calcul. C'est le nerf de la guerre, confirme Anne Bouvreau, la patronne de ce sommet.
L'intelligence artificielle, il y a besoin de puissance de calcul pour faire tourner ces modèles. Donc à la fois, il faut essayer de mettre en place des applications spécifiques pour avoir besoin de moins de puissance de calcul pour une application donnée. Mais au global, il y a quand même besoin de beaucoup de puissance de calcul. C'est pour ça que ces investissements sont bienvenus.
Alors, 20 plus 50, ça fait 70 milliards d'euros. Jérôme, il en manque donc 40. On aura le détail dans l'après-midi. Le chef de l'État doit prononcer un discours ici à 17h.
où l'on cherche donc des milliards au Grand Palais. Merci Xavier Demagny, réponse dans ce discours d'Emmanuel Macron. Vous étiez avec Benjamin Reyes. Alors on sent que dans l'arbitrage entre innovation et régulation, l'Union européenne est petit à petit en train de pencher vers la première, pour accélérer, pour reprendre le verbe utilisé par le chef de l'État. Tout cela sous la pression des États-Unis de Trump, qui eux ont levé toutes les restrictions d'usage pour l'IA. Promesse faite ce matin par Enna Virkkunen, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la souveraineté numérique.
Au sein de la Commission européenne, nous sommes très impliqués pour simplifier nos règlements, vérifier qu'ils sont toujours du côté de l'innovation. Nous sommes en train de mettre en œuvre la loi européenne sur l'IA de manière à ce qu'elle soit favorable à l'innovation. Nous devons éviter de toujours rajouter des contraintes et de la bureaucratie pour les entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle en Europe.
Enna Virkkunen, l'une des rares femmes, il faut bien le dire, à prendre la parole à l'occasion de ce sommet, elle répondait à Frédéric Seyss. Alors parmi les secteurs qui sont le plus bousculés par le développement de l'intelligence artificielle, il y a l'information, comment se prémunir contre les fausses nouvelles, par exemple ces fausses nouvelles qui peuvent être générées par l'IA. Pour en parler et vous expliquer comment ici à Radio France on intègre l'IA ou pas d'ailleurs à notre traitement de l'information, Florent Latrive est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes directeur adjoint de l'information à Radio France, en charge du numérique. On va parler des dangers éventuels dans un instant. D'abord, ce que ça nous apporte, ce que peut nous apporter l'IA. Est-ce qu'on l'utilise déjà à Radio France ?
Alors, on utilise l'intelligence artificielle à Radio France, notamment pour faire des tâches qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas d'IA. En fait, c'est ça le
principe. Ça ne remplace pas une tâche de quelqu'un.
Et surtout, le but, c'est vraiment d'augmenter le journalisme qu'on pratique et pas du tout d'automatiser certaines tâches en passant.
Concrètement,
on peut en citer deux exemples. Le premier, c'est les transcriptions audio. Là, on se parle en ce moment même. Le texte de la transcription de ce qu'on est en train de se dire va être fourni dans les systèmes informatiques des journalistes et des éditeurs de Radio France pour pouvoir s'en servir pour valoriser le journal de 13h, par exemple, sur Internet.
Donc, ils l'auront en texte, s'ils veulent le valoriser en texte.
Voilà. Et on a une centaine d'émissions aujourd'hui qui sont transcrites avec, comme des sous-titres, en fait, qui sont disponibles sur la plateforme Radio France et qui permettent notamment aux sourds et aux malentendants de pouvoir accéder à une information qu'ils n'auraient pas sinon.
Avant l'IA, les sourds et malentendants ne pouvaient pas retrouver vos propos, l'interview qu'on est en train de faire.
Et maintenant
c'est possible.
Voilà.
Je suis auditeur de France Inter. Comment est-ce que je peux être sûr que le journaliste qui nous fait un papier, William Delesseux nous a raconté ce qui s'est passé ce week-end dans la Manche avec ses traversées de migrants, comment je peux être sûr que William ne l'a pas fait avec l'intelligence artificielle en disant ChatGPT, raconte-moi ce qui s'est passé ce week-end dans
la
Manche.
En fait, on a des règles en interne, on a fait une charte d'usage de l'intelligence artificielle qui proscrit tout usage déterminant de l'IA, notamment sans transparence et surtout sans contrôle de l'être humain. Donc, parce qu'il faut quand même comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas un rapport à la vérité qui est très complexe. En fait, ce sont des machines qui sont des machines statistiques, qui sont des machines qui produisent des discours plausibles et certainement pas des discours basés sur les faits. Donc on imagine bien qu'en matière de journalisme, c'est un immense problème. Donc ça veut dire que nous, on interdit tout à fait l'usage de l'IA s'il n'est pas ultra contrôlé par un journaliste ou par un être humain derrière.
En quoi ce serait un problème, par exemple, que William écrive son papier en disant « ChatGPT, compile-moi les informations de ce week-end sur ce sujet, fais-moi un papier
Parce qu'il y aura des erreurs.
Plausible en 50 secondes.
Il y aura des erreurs. On appelle ça des hallucinations. En fait, c'est le mode de fonctionnement même des intelligences artificielles qui produit des hallucinations. Alors, dans 99% des cas, ça pose aucun problème, mais 1% des cas, ça produit des erreurs. Et évidemment, dans notre cas, et pour du journalisme, c'est rigoureusement impossible.
Est-ce qu'on peut s'en servir pour traiter un rapport, par exemple ? Il y a régulièrement les rapports du GIEC qui documentent le changement climatique. Ce sont des rapports qui font des centaines de pages. Si je dois rédiger un papier pendant 2, 3, 4 heures, est-ce que je peux me servir de l'intelligence artificielle ?
Alors, il y a deux cas. Si vous n'y connaissez rien au GIEC, que vous n'avez jamais lu les rapports du GIEC, que vous ne connaissez pas les problématiques du dérèglement climatique, alors surtout ne faites pas ça, parce que pour les raisons qu'on a données, ça va créer des erreurs. Vous ferez un très mauvais papier avec beaucoup d'erreurs. En revanche, si vous êtes déjà à l'aise avec le dérèglement climatique, que vous êtes un expert dans le domaine, un journaliste spécialisé, alors là, l'IA peut vous aider à aller plus vite, à reprendre des passages que vous connaissez, que vous avez déjà lus, à résumer des endroits, et vous serez en capacité par ailleurs de les vérifier, et donc de produire une information juste à la fin.
La clé, Florent Latrive, c'est la source, c'est savoir d'où vient l'information, c'est que ça reste transparent.
La clé, c'est que ça reste transparent, et aujourd'hui, c'est notamment avec le développement de l'IA, autant je suis convaincu que l'IA peut vraiment servir le travail des journalistes au quotidien avec les critères qu'on donnait tout à l'heure et beaucoup de prudence. Autant on peut être beaucoup plus inquiet sur la manière dont le paysage de l'information en général évolue autour des deepfakes, donc des vidéos fausses, etc. sur Internet. Tout ça encouragé par des algorithmes parfois de moins en moins régulés. Ça, cette question, elle est très importante parce que ça veut dire que pour le public, la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux devient de plus en plus difficile à déceler sur l'espace qui est le nôtre et l'espace de l'information. À noter d'ailleurs que pour essayer de répondre à ça, on s'est allié là ces jours-ci à l'occasion du sommet de l'IA avec d'autres acteurs du visuel public, français, notamment France Télé, France Média Monde, l'INA, TV5 Monde, mais aussi des acteurs internationaux comme CBC Radio-Canada, la radio publique, télé publique espagnole par exemple, les Finlandais, les Lituaniens, pour se mettre ensemble et proposer des solutions pour essayer de mieux travailler sur l'intégrité de l'information à l'ère de l'IA.
Car on ne peut réguler qu'à l'échelle internationale.
C'est la question.
Bien évidemment. Merci Florent Latrive d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Directeur adjoint de l'information à Radio France, en charge du numérique. Pour faire tout cela, pour faire fonctionner ces intelligences artificielles, on a besoin de beaucoup d'électricité. On vous l'explique depuis ce matin sur Inter à l'occasion de cette journée spéciale. Bonjour Delphine Simon. Est-ce qu'on ne met pas tout de même la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on aura l'énergie de nos ambitions en matière d'intelligence artificielle?
Oui, car faire une requête avec ChatGPT réclame 10 fois plus d'électricité qu'une recherche avec Google, selon l'Agence internationale de l'énergie. À ce stade, dans l'Hexagone, on ne compte presque aucun data center dédié à l'IA générative, mais dans son bilan prévisionnel, le gestionnaire du réseau RTE estime que la consommation de ses usines numériques pourrait tripler d'ici 2035, des perspectives qui intègrent déjà en partie le fait que la France va attirer des grands data centers à vocation internationale. Notre énergie décarbonée intéresse beaucoup les investisseurs, d'autant plus qu'elle est peu chère. Rien qu'en région parisienne, les besoins de puissance électrique avoisineraient 5 à 7 réacteurs nucléaires, explique Cécile Diguet, experte numérique pour l'ADEME.
Les data centers ont quand même une tendance un peu grégaire à se rassembler et à créer des points de concentration et de congestion. Et c'est ça qui fragilise le réseau. Alors, il y a beaucoup de collectivités locales qui se posent des questions. Paris-Saclay, par exemple, ou Grand Paris Sud, attendent une planification qui serait à la fois spatiale et énergétique. Et sur ce sujet, il faut que ça soit pris en main au plus haut.
D'autant plus que le gouvernement veut aussi massivement électrifier nos usages avec les véhicules électriques, l'industrie qu'il faut décarboner. Alors qui fournira autant d'électricité? C'est toute la question, car les futurs réacteurs nucléaires EPR2 ne seront pas mis en service avant 2035. Et ça, c'est la version la plus optimiste.
Delphine Simon, je vous précise que notre journée spéciale sur Inter se poursuit. Dans une demi-heure, nous serons à Chartres, l'une des villes françaises les plus en avance sur l'IA, dans la Terre au Carré également, avec Mathieu Vidard à partir de 14h et puis entre 18h et 20h autour de Fabienne Sintès, émission spéciale en direct du Grand Palais. Mais on se rend compte aussi qu'à l'heure de l'IA, les bonnes vieilles maquettes peuvent toujours servir. L'un des ouvrages maritimes les plus célèbres de France, le Fort Boyard en Charente-Maritime, est menacé par l'érosion. Et pour le protéger des flots autour de lui, vont être construits des ouvrages de défense. Et bien ces ouvrages sont testés en ce moment en miniature dans un bassin. Ça se passe au sein du laboratoire maritime flamand d'Ostende, en Belgique. Et Sarah Hendricks, journaliste à la radio-télévision belge RTBF, a assisté pour nous aux essais la semaine dernière.
Dans un gigantesque bassin de 30 mètres sur 30, d'énormes vérins s'actionnent pour créer des vagues qui viennent s'écraser sur une maquette du célèbre fort, 30 fois plus petite que l'original. Bardés de capteurs, les futurs ouvrages de protection sont scrutés par les ingénieurs. Objectif, vérifier leur efficacité et leur stabilité. Mathieu Barbier, ingénieur du département de Charente-Maritime.
On est venu jusqu'à Ostende parce qu'il y avait la compétence, il y avait un labo avec du matériel adapté qui nous permet de faire un modèle 3D de qualité et donc d'arriver à, je dirais, récupérer les bonnes données pour faire un dimensionnement efficace.
Ici, les responsables du chantier peuvent voir concrètement l'effet des vagues et des courants sur les ouvrages qu'ils ont imaginés pour protéger le fort, bien mieux que sur papier ou ordinateur. Peter Troch, professeur à l'université de Gand et coordinateur du bassin.
Ce que nous voyons ici, par exemple, c'est que lorsque les vagues frappent la structure, elles courent le long des côtés de la structure jusqu'à l'arrière. Et cela n'avait pas été remarqué dans la conception avec autant de détails auparavant.
Grâce aux 15 jours de tests dans ce laboratoire d'Ostende, les ingénieurs vont pouvoir adapter leur plan pour protéger au mieux le Fort Boyard à l'avenir et permettre son ouverture au public en 2028.
Et les travaux de protection du fort doivent débuter cet été. Budget total 36 millions d'euros. Un appel aux dons a été lancé en bord de mer, à Marseille, dans les Calanques. Des tonnes de déchets toxiques, arsenic, plomb, mercure, plus d'une trentaine de métaux lourds au total, ont été répertoriés sur 77 dépôts. Ces pollutions sont l'héritage du passé industriel de la ville de Marseille, mais il faut aujourd'hui l'effacer car la justice, saisie par des associations de riverains et de protection de la nature, vient de condamner l'État français, il y a un mois et demi, à dépolluer ces calanques. Et Frédéric Chapuis, c'est un chantier titanesque qui va devoir débuter.
Derrière la carte postale, une pollution visible tout au long de la route des Goudes.
Tous ces déblais là, ils sont brun ocre, tout ça c'est des dépôts de scorie, donc ça fait partie des dépôts qui ont été visés par la décision.
Florent Tizot, avocat des associations, évoque un jugement historique, 77 sites à dépolluer sur 29 hectares, avec la contrainte de ne pas contaminer davantage, explique Roland Dadena de l'association Santé Littoral Sud.
La première des règles, c'est éviter que les polluants se dispersent.
Deux manières de dépolluer, soit enlever les déchets toxiques au milieu confiné.
Souvent ces tentes sont pressurisées, les ouvriers travaillent à l'intérieur avec des combinaisons au cosmonaute, exactement comme pour l'amiante.
Mais quand excaver sera impossible, la méthode sera bien plus radicale.
Il y aura une sorte de couverture bétonnée, ferraillée.
Pour ce chantier titanesque...
Ah bah oui, c'est des travaux d'Hercule, mais il faut les faire.
La justice accorde à l'État environ 3 ans, c'est peu.
C'est pas en claquant dans les doigts qu'on va dire ça va être fait là dans 6 mois, là dans 1 an, etc.
Autre difficulté, l'argent. L'État a budgétisé 14 millions d'euros pour Samena, mais il en faudrait au moins 10 fois plus pour l'ensemble des calanques.
Reportage ici Provence, la préfecture des Bouches-du-Rhône indique que la procédure pour sécuriser, mais pas dépolluer, pour sécuriser ces calanques, cette procédure est lancée.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un personnage clé de notre République, le président du Conseil constitutionnel. Conseil qui, par exemple, valide les résultats d'une élection présidentielle, vérifie les comptes des candidats ou choisit de censurer tout ou partie d'une loi votée par les parlementaires si elle n'est pas conforme à notre Constitution. Ces dernières années, à droite et à l'extrême droite, de nombreux élus, de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen, ont critiqué son trop grand pouvoir. Voilà le contexte dans lequel va intervenir la nomination du successeur de Laurent Fabius, l'actuel président. Président qui sera désigné pour 9 ans. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
C'est une prérogative du président de la République qui va donc ce soir proposer un nom. Et selon toute vraisemblance, il s'agira de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est un proche du chef de l'État.
Ah oui, il est le premier marcheur, le premier député socialiste à avoir rejoint Emmanuel Macron lorsqu'il s'est émancipé de François Hollande pour fonder En Marche, un fidèle d'entre les fidèles qui a gagné la confiance du futur chef de l'État en défendant comme rapporteur général les lois dites Macron à l'Assemblée en 2016. Ce juriste de formation a fait carrière dans les assurances, les mutuelles du Mans notamment, qui lui ont valu une mise en examen pour prise illégale d'intérêt que la justice a finalement classée parce que prescrite. Il a été en revanche contraint de démissionner de son poste de ministre de la Cohésion des Territoires qu'il n'aura occupé qu'un mois. En 2018, il devient président de l'Assemblée nationale, un perchoir qu'il perd en étant défait aux élections législatives de 2022. Il continue toutefois d'être un conseiller très très écouté du président.
Richard Ferrand a donc été député socialiste avant de rejoindre Emmanuel Macron. Sa nomination va devoir être validée par les députés et par les sénateurs. Comment ça va se passer?
Alors vers 19h30, le président de la République devrait proposer officiellement le nom de son candidat, tout comme le feront la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Leurs nominations seront validées si la majorité des 3/5 des membres des commissions des lois de l'Assemblée ou du Sénat ne s'y opposent pas. Comme le président Larcher devrait faire voter ses troupes comme un seul homme, parce qu'il a négocié que son candidat, le sénateur Philippe Bas, fera bien lui-même son entrée au Conseil des Sages. Dans le camp de Gabriel Attal, on ménage un petit peu de suspense. La rançon d'une dissolution qui ne passe toujours pas. La gauche et le RN n'ont pas les moyens seuls de faire capoter ces nominations.
Merci Laurence Perron. Deux députés, l'un socialiste, l'autre républicain, veulent déposer une proposition de loi pour, je cite, « lutter contre les injustices faites aux personnes en situation
de handicap. Et cela sonne comme un aveu d'échec pour la loi handicap promulguée il y a quasiment 20 ans. C'était le 11 février 2005 et qui consacrait l'égalité des droits à la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
D'après les derniers chiffres officiels, plus de 14 millions de personnes de 15 ans et plus présentent un handicap en France et l'on constate que 20 ans après, les discriminations et le manque d'accessibilité demeurent.
Oui, à commencer par les établissements recevant du public. On parle là des magasins, des administrations, des restaurants, des gares, etc. Bref, moins de la moitié répondent aux normes handicap. À Paris, difficile d'emprunter le métro en fauteuil roulant. Seule la ligne 14 est totalement équipée d'ascenseurs. Les travaux de mise aux normes peuvent être très coûteux, en particulier sur des bâtiments historiques. Les constructions neuves ne prennent pas toujours en compte non plus le handicap. Un récent rapport souligne d'ailleurs le manque de logements adaptés.
Quand on parle accessibilité, on parle aussi école, emploi, justice ou santé.
Oui, tout à fait. Par manque de médecins formés, des personnes handicapées renoncent parfois à se soigner. L'accès aux droits peut également s'avérer compliqué quand, par exemple, il n'y a pas d'interprète en langue des signes, ni encore d'officier de police sensibilisé aux troubles psychiques. À l'école, les élèves en situation de handicap sont de plus en plus nombreux, certes, plus de 490 000 à la rentrée 2024, mais les prises en charge sont disparates et des milliers d'enfants restent déscolarisés.
L'autre chantier, Alice, c'est l'accessibilité numérique.
D'après la Fédération des aveugles de France, seuls 2,5% des sites internet respecteraient leurs obligations. Faire des achats ou des démarches en ligne peut se transformer en parcours du combattant. Et c'est pour toutes ces discriminations que nous venons de citer que le Conseil de l'Europe a déjà condamné la France il y a 2 ans pour violation des droits des personnes en situation de handicap.
Et c'est pour toutes ces lacunes que les associations du secteur appellent un grand rassemblement. Ce soir, place de la République à Paris. Merci Alice Cachaner. C'est la face cachée des grandes réussites du cinéma français en 2024. On peut parler d'Emilia Pérez ou encore du film Le Comte de Monte Cristo. Ils ont été tournés dans les mythiques studios de Brie-sur-Marne en Ile-de-France. Des studios qui étaient en danger de fermeture et qui ont engagé leur métamorphose. Ils vont bientôt doubler de volume pour répondre à la demande croissante, portée notamment par le développement des plateformes. Fanny Imbert a pu les visiter.
Entre les projecteurs et les caméras, les acteurs en costume s'affairent. Nous sommes dans un cabaret des années 1900 sur le tournage de Montmartre, une mini-série historique pour TF1. Scène en bois et barre d'époque, fabriquée dans les ateliers. Sans quoi la série n'aurait pas pu voir le jour, explique Aline Planel, la productrice.
Je pense qu'on ne tournerait pas aussi vite si on était en décor naturel. On a une practicité et une disponibilité du lieu 100% dédiée.
Aujourd'hui, les 7 plateaux tournent à plein régime, mais ça ne suffit pas pour répondre à la demande. Alors, d'ici un an, les studios auront doublé de superficie, se réjouit Guillaume de Menton, producteur et propriétaire du site.
Aujourd'hui, il y a 30 000 m², on voudrait passer à plus de 60 000. Les plateaux sont entourés d'un côté de loges, de lieux de maquillage, de coiffure, et de l'autre d'ateliers, avec une rue industrielle où on peut entrer avec des camions.
Le développement industriel des tournages français, c'est un enjeu majeur pour la filière, selon Olivier Henrard, président du CNC, le Centre National du Cinéma.
C'est tout l'objet d'un pôle comme celui de Brie, offrir aux tournages français étrangers à la fois le meilleur de la technologie des studios et exactement au même endroit des écoles qui vont former les talents techniques et artistiques dont ces tournages ont besoin.
Un mini Hollywood à la française à plusieurs dizaines de millions d'euros qui devrait sortir de terre fin 2026.
Reportage Fanny Imbert. Le triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, participera-t-il en avril pour la première fois à la classique cycliste Paris-Roubaix, lui qui s'y est toujours refusé, il a publié une vidéo ce matin où on le voit à l'entraînement sur la célèbre trouée d'Arenberg qui se situe donc sur le parcours de l'Enfer du Nord. Pogacar à Paris-Roubaix, c'est donc bien parti, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, venez partager sa joie et la nôtre de la savoir de retour à terre après son Vendée Globe. Violette d'Orange est notre invitée. Elle nous attend en direct des Sables d'Olonne. Elle qui a bouclé hier devant une foule immense son tour du monde à la voile. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions et pour vos témoignages. Et puis la suite de notre journée spéciale intelligence artificielle, il faut qu'on se parle. Toute cette semaine dans notre feuilleton, nous sommes dans la ville de France la plus avancée en la matière, c'est Chartres. A tout de suite.
Vous aimez les histoires bien racontées? Les affaires non élucidées et leurs résonances actuelles. Les personnages ambigus. Les disparitions inexplicables. Les atmosphères troubles dans les brumes du Nord. la guerre froide et ses espions. Ingrid Hasson, le Simenon islandais, témoigne des illusions d'ingénues qui ont perdu la vie en croyant la changer. Les lendemains qui chantent, d'Arnaldur Indridason, vient de paraître aux éditions Métellier.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée grise et humide.
Oui, avec beaucoup de nuages, des pluies, alors surtout au nord. Elles sont plus éparses, du massif central vers les Alpes et la Méditerranée. Un peu de neige vers 1700 mètres sur les Alpes, 2000 mètres pour les Pyrénées. On a de l'air plus froid qui gagne l'extrême nord avec un vent de nord-est près des côtes de la Manche. Pluie et neige mêlée circulent de la Normandie au Hauts-de-France. Dès la fin de journée jusque dans la nuit, de petites chutes de neige pourront blanchir les sols de la Seine-Maritime au Nord-Pas-de-Calais. C'est plus lumineux du sud de la Bretagne vers la Touraine et la Vendée avec de petites éclaircies. Même chose du sud de l'Aquitaine vers le midi toulousain et le Roussillon. Les températures restent hivernales au nord, le plus souvent avec 4 à 10 degrés. Elles sont plus douces au sud, hein, 12 à 17 degrés. Demain, attention, petite gelée sur le nord-ouest, donc prudence sur les routes. Et puis ce sera souvent encore bien encombré avec quelques pluies sur les deux tiers sud.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
Cette voix, vous l'avez entendue dans ce 13-14 pendant 3 mois. Voix joyeuse, voix vive, parfois avec une pointe d'inquiétude, mais toujours au rendez-vous que nous avions fixé au mois de novembre. Aujourd'hui, c'est mon tour de retourner le salut. Bonjour Violette d'Orange.
Bonjour Jérôme.
Est-ce que tout va bien, Violette ?
Oui, tout va bien. J'ai enfin remis les pieds à terre et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion, un soulagement d'avoir réussi ce tour du monde.
Je suis très heureux de vous entendre à terre, sans les bruits du bateau. Ça fait bizarre, ça doit vous faire bizarre à vous aussi ?
Ça me fait très bizarre, de retrouver la vie quotidienne. Déjà, la première douche, la première nuit dans un vrai lit, remettre des habits secs, sortir de l'humidité, du froid, c'est le plaisir de revivre au quotidien.
Vous êtes en direct des Sables d'Olonne avec nous pendant 25 minutes dans ce 13-14, invité exceptionnel pour répondre à toutes les questions des auditeurs qui vous ont suivi à la trace pendant 3 mois autour du monde grâce à vos fameux messages. On va en réécouter quelques-uns dans quelques secondes. Je vous attends nombreux, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter, ce café Gaël de Nantes. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Que vouliez-vous dire à Violette d'Orange après cette arrivée triomphale, près de 50 000 personnes pour l'accueillir hier matin au Sable d'Olonne ?
Alors, comme tout le monde, je pense surtout, dans un premier temps, la féliciter, lui dire à la fois notre étonnement et notre admiration. Moi, en ce qui me concerne, au départ, mon chouchou était Jean Le Cam, comme beaucoup. J'ai appris à découvrir Violette, et en fait, au départ, on était juste étonné par l'ampleur de l'exploit compte tenu de son âge, mais en fait, on a aussi découvert sa personnalité, sa communicativité, sa sympathie, qui nous a donné envie de la suivre au moins autant. Et puis, c'est devenu un peu, je pense, la mascotte pour beaucoup de gens. Et puis moi, ma question était plus relative au fait qu'on peut aussi s'identifier un petit peu. J'ai 54 ans, j'ai une fille qui a aussi un nom de fleur, c'est pas une violette, c'est une rose. Et je voulais savoir si quand on a son âge et qu'on fait ce genre d'exploit, dans quelle mesure on est en contact avec ses proches, et si par exemple, quand elle a décidé de mettre le frein à main pour ne pas affronter la dépression et jouer la sécurité, est-ce que ses proches ont impacté sa décision? Ou est-ce qu'elle a pris sa décision seule?
Merci pour votre appel et pour votre témoignage. On a de très nombreux appels, évidemment, aujourd'hui. Violette d'Orange, d'abord sur l'élan d'amour qui vous a pris, qui vous a peut-être submergé hier.
Oui, merci Gaël pour votre message et votre question. C'est vrai qu'hier, c'était énormément de... C'était très surprenant de voir autant de monde à cette arrivée. Je m'attendais pas à autant, sincèrement. Et j'ai eu une émotion de sidération, vraiment. Je savais pas où j'étais. Je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'ai reçu un shot d'amour assez impressionnant à cette arrivée. Et puis le fait de retrouver mes proches, c'était fou.
Vous êtes dit c'est trop quand vous avez vu ces dizaines de milliers de personnes le long du chenal?
Bah, c'est trop, c'est que du positif, mais c'est sûr que c'est, ça fait très très bizarre quand on a vu zéro visage pendant 3 mois, qu'on est resté dans un tout petit bateau. Enfin, non, au final, le bateau il devient de plus en plus petit au fur et à mesure, donc c'est, on est dans notre bulle pendant 3 mois, et puis du jour au lendemain, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent et qui tendent des pancartes avec marqué violette dans tous les slogans possibles, et ça touche énormément. Et je pense qu'hier je réalisais pas du tout. J'étais vraiment j'étais sortie de mon corps. Enfin, c'était très bizarre comme sensation. Et petit à petit, je réalise tout ça et c'est fou, quoi.
Alors, votre famille était évidemment là pour vous accueillir. Elle est toujours à vos côtés. Évidemment, après 3 mois, vous avoir laissé faire le tour du monde en mer. Votre papa, notamment Arnaud, est à vos côtés. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous l'aviez préparé, Violette, à ce qui lui est arrivé hier. Vous lui aviez fait passer un peu des messages sur attention, ou en tout cas prépare-toi, parce que ton tour du monde suscite énormément d'enthousiasme et d'engouement.
En fait, on lui a fait un petit brief pour ouvrir la bouteille de champagne. Ça, c'était la veille. Et puis, on lui a expliqué qu'il y aurait beaucoup de monde, mais on s'attendait pas, nous non plus, à autant de monde sur l'arrivée, sur la remontée du chenal. Donc, c'était difficile de prévoir un tel engouement, même si on voyait que sur les réseaux, ça prenait des proportions incroyables.
Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ?
Comme Violette. J'avais l'impression d'être sorti de mon corps, de voir autant d'amour sur le chenal, tous ces enfants qui étaient venus acclamer Violette, des pancartes avec des enfants qui disaient « c'est moi dans 8 ans ». Enfin, j'ai trouvé ça vraiment formidable, formidable. Et Violette nous a dit j'ai l'impression que c'est comme un grand mariage, tout le monde est là, et c'était un grand mariage, en fait.
Un grand mariage.
Un grand mariage d'amour.
Oui, ouais. Entre elle et entre tous ces Français qui l'ont suivi pendant 3 mois. Je reviens sur la question de Gaëlle, qui nous dit à quel moment ses proches interviennent dans sa prise de décision, etc. Et notamment, avant de passer le Cap Horn, quand il y a cette fameuse dépression, ces vents très forts annoncés, où Violette, elle nous l'a dit, on va la réécouter dans les messages qu'elle nous a envoyés durant ces 3 mois. J'appuie sur stop et je vais attendre, c'est plus sûr. Est-ce que vous étiez en contact avec elle à ce moment-là ?
On avait un petit rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches en fin de journée avec la famille. On faisait un petit échange téléphonique. Et alors on n'a pas le droit d'aider à une décision stratégique. Donc on avait évidemment, on faisait très très attention à ce qu'on disait à Violette. Nous on était dans l'émotion. Surtout que un jour elle nous a appelé, elle était très très inquiète, hein, on sentait, et on lui a dit de suivre son instinct, et c'est ce qu'elle a fait, et je pense que ça l'a rassurée de lui dire qu'elle devait avoir confiance en elle et que tout le monde avait confiance en elle.
Ce sont des moments difficiles à gérer, à vivre, quand sa fille, Benjamine de l'épreuve, est à des milliers de kilomètres face à des choix très importants qui impliquent aussi sa vie elle-même.
Je ne peux pas vous dire le contraire. C'était ce passage... plus, on l'avait pas vu. Moi, j'avais pas la météo qui montrait le danger annoncé, en fait. Et oui, c'était ça annoncé, ce petit coup de fil, une bonne semaine de stress, ouais, effectivement.
Merci d'avoir été en direct avec nous, Arnaud d'Orange, juste à côté de votre fille Violette, qui est avec nous en direct dans Stress 14. Je vous garde et je voudrais, avant d'accueillir Jean Le Cam, qui est à vos côtés, et Claire aussi, qui nous appelle de Morlaix, on a énormément d'appels d'auditeurs, qu'on réécoute une partie des notes que vous nous avez envoyées, Violette, très régulièrement, pour se replonger dans ce tour du monde et l'intensité qu'on a vécue grâce à vous.
J'y suis dans les premières 24 heures de mon tour du monde. Ça y est, c'est parti.
Je suis à peu près au niveau du détroit de Gibraltar.
Ces derniers jours, c'est la panne. La panne d'Alizée. Pétole, pas de vent.
J'avais entendu les marins en parler en me disant « Ouah, tu vas voir, c'est horrible, tu peux rester bloqué des heures, voire même des jours dedans.
» Là, je suis actuellement dans un nouveau passage de front froid bien costaud. Hier, j'ai fait un deuxième départ au tard.
Et je me suis retrouvée en cochon pendu,
juste sur ma colonne, c'est-à-dire que je me suis rattrapée avec une jambe et je me suis retrouvée la tête en bas.
J'ai fait une belle boulette. J'ai entendu un gros bam. J'ai vu que c'était la bastac. Il y a l'anneau en tal qui a cassé et du coup, il faut que je répare ça.
On est au 44e jour de course et aujourd'hui, c'est Noël. Et ce soir, j'ai un repas spécial Noël. C'est un plat préparé par un chef mis sous vide. Je crois que c'est un parmentier de canard, ça va être trop bon. On est à 60 jours de navigation et je me trouve à 600 milles du Cap Horn. Il y a des conditions météorologiques qui sont vraiment terribles et ça me terrifie d'aller dans des conditions comme ça. Alors, il y a la zone des glaces très proche sous notre vent. Hier soir, j'ai reçu un message de la direction de course me prévenant que des icebergs ont été détectés au nord de la zone des glaces. Alors aujourd'hui, c'était surveillance des glaçons.
Ça y est, je suis enfin sortie de la tempête. C'était dur. Oh, je pense que c'était un des moments les plus durs de mon Vendée Globe. Je vais avoir dû plusieurs jours de réparation. Et puis après, il va falloir, en fin de semaine, dès que je peux, monter dans le mât.
J'ai eu peur parce que je me sentais en danger. J'ai cru que j'allais me casser un bras à plusieurs reprises. J'ai crié, j'ai pleuré pour faire sortir toute la tension que j'avais ressentie.
83e jour en mer et là, c'est ma dernière semaine. Je suis tellement heureuse et fière de moi d'avoir traversé tous ces océans, toutes ces épreuves. Petit à petit, je me rapproche un petit peu plus de la maison. Alors je profite de ces derniers instants qui sont juste magiques en mer. Mais comme les chevaux qui sont écuries, je suis aussi au taquet pour arriver le plus vite possible. Allez, à bientôt.
Voilà, petit échantillon de ces messages que vous nous avez envoyés pendant 3 mois et qu'on peut retrouver sur franceinter.fr. Qu'est-ce que ça vous fait de vous réécouter, Violette d'Orange ?
C'est incroyable, c'est trop rigolo de voir toutes les phases par lesquelles je suis passée. Je me rends compte qu'en fait, au ton de ma voix, je sais que si j'étais dans un moment dur ou dans un moment joyeux.
Et nous aussi, parce qu'on a appris finalement à vous connaître petit à petit au travers du timbre de votre voix, nous et les auditeurs bien sûr, comme Claire qui nous appelle de Morlaix. Bonjour Claire.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Violette et encore une fois toutes mes félicitations avec émotion et admiration. Et je voudrais aussi féliciter vos parents qui vous ont soutenu dans la réalisation de vos rêves et c'est ce qui fait que vous êtes devenue une warrior. Donc, ma question est, quelle est la difficulté que vous avez rencontrée, à laquelle vous n'étiez pas préparée et que vous avez surmontée avec fierté? Voilà, bonne continuation Violette.
Merci Claire pour votre question Violette.
Merci Claire. On en entend parler un petit peu dans les vocaux, dans le résumé. C'est, je pense que les montées au mât, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Alors j'en ai fait deux sur la course. La première, j'avais choisi mes conditions, j'ai choisi du temps super calme, super beau pour faire ça, et ça s'est bien passé. J'étais très contente de moi, j'avais réussi à faire ma petite réparation pour pouvoir remettre des voiles d'avant. Et par contre, la deuxième montée au mât, en fait, c'est à cause d'un problème où j'ai ma grand voile qui est tombée jusqu'en bas. Et donc là, j'avais vraiment pas le choix, je pouvais pas choisir mon jour, il fallait que je répare tout de suite. Et je me suis retrouvée à monter dans le mât avec un peu de mer. Il y avait seulement 1 mètre, 1 mètre 50, mais ça suffisait pour faire rouler le bateau dans tous les sens. Et c'est là où je dis que j'ai eu peur, que j'ai cru que j'allais me casser un bras parce que
vous aviez peur de tomber.
Je me faisais un peu balader. Pas peur de tomber, mais par contre, je me faisais balader dans le mât parce que le bateau roulait dans les vagues sans ses voiles. Et c'était assez compliqué de le stabiliser et je me suis cognée dans tous les sens et ça a été très très dur. J'avais peur de me faire mal surtout.
Vous êtes monté 2 fois au mât, Violette d'Orange. Je crois que Jean Lecam, qui est à côté de vous, est monté 3 fois. C'est bien ça, Jean ?
Oui, ouais, c'est ça.
3 fois au mât, 20e de ce Vendée Globe, quelques jours avant Violette d'Orange, qui a navigué sur votre ancien bateau, Hubert, que vous lui avez cédé, puis vous l'avez accompagné dans la préparation. Et puis vous étiez là aussi hier pour son arrivée. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment d'hier, Jean Lecam ? Vous qui en avez vu d'autres ?
Ah bah c'était un moment extraordinaire, hein, la remontée du chenal. En plus, moi, quand on est allé raccompagner Violette sur le retour, nous on était dans le Zodiac, on voulait se faire discret. Et en fait, les gens ils m'ont reconnu quand j'étais dans le Zodiac, quand je sortais du port. Donc j'ai fait un double chenal aller-retour une fois de plus, et là il y avait un public pour accueillir Violette qui était incroyable, quoi. Il y avait une ambiance et toujours une ambiance, je dirais, bon enfant, une ambiance où les gens dégagent vraiment des sentiments, vraiment des sentiments positifs. Donc c'est un endroit, c'est un moment où au-dessus de ce chenal, c'est vrai qu'il y a un gros cœur qui se dégage et il y a une ambiance de plein de positifs qui se dégagent au-dessus de ce chenal dans ses arrivées ou même dans ses départs.
Comment vous expliquez ça, vous qui avez rencontré Violette il y a plusieurs mois maintenant, quand personne ne la connaissait au fond ?
Ben, je pense que s'il y a son parcours, son caractère, sa façon de s'exprimer, et je pense que les gens sont très sensibles à je dirais, sa façon d'être. Et le Vendée Globe, c'est ça, hein, c'est aussi une révélation de personnalité qui fascine le public et qui fascine les gens. Je pense que c'est et je pense que en plus ça fait du bien à tout le monde.
Violette d'Orange, comment est-ce que vous avez travaillé ça ? Est-ce que vous l'avez travaillé ou bien est-ce que finalement se mettre devant un téléphone, se filmer et parler, chez vous c'est simplement naturel ?
C'était la première fois que je faisais des notes pour une radio comme France Inter, donc non, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment nouvelles. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé très tôt à faire de la communication. Dès que j'ai commencé en optimiste, je me souviens que mon premier partenaire, qui était le fournisseur de bateaux d'optimiste, me disait « Allez, il faut faire des vidéos pour Facebook, faut se filmer et raconter sa course ». Et c'était un exercice super dur quand on avait seulement 13 ans. Et je pense que ça m'a beaucoup formée, parce qu'après j'ai continué. Et aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec ma manière de parler, ma manière de filmer. Avec mon image que je veux partager, je pense que ça m'a c'est aussi que j'ai commencé très tôt mais il y a quand même beaucoup de choses nouvelles.
Alors c'est une chose de communiquer, Jean Le Cam, mais il faut quand même faire avancer le bateau. Violette d'Orange a fait ce tour du monde, elle a amené le bateau sans casse et à bon port, 25e place. Est-ce que pour un premier Vendée Globe, elle vous a bluffé vraiment sur ses qualités de marin ?
Bah dans la première partie de la course, elle était bien placée. Puis à un moment, elle s'est un peu elle s'est un peu perdue. Et à un moment, je comprenais pas pourquoi. Et donc, de toutes les manières, un Vendée Globe, c'est aussi de l'expérience. C'est des situations météo dans lesquelles tu es à un certain moment. Donc, et c'est vrai que tu peux faire autant de concurrents sur le Vendée Globe, autant de Vendée Globe différents, parce que la météo est différente pour chaque équipe. Et puis à un moment, quand tu rates un coche, tu te fais distancer et tu peux perdre 1000 comme qui rigolent. Mais il faut savoir que déjà quand tu montes un projet comme celui de Violette ou tous les autres. Je pense que c'est un parcours très difficile, déjà pour arriver au départ. Et puis après, la grosse victoire, c'est d'être à l'arrivée quand même, en dehors de tout ce qui est classement, etc. Donc, voilà.
Vous êtes venu l'accueillir hier, Jean Le Cam, vous l'avez accompagné, vous êtes là en ce moment en nous parlant côte à côte. Est-ce qu'une transat en double avec Violette d'Orange, ça peut être envisageable ?
Ça, je sais pas, on vient d'arriver, donc après les programmes des uns et des autres, moi aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire demain, donc on verra bien le futur, on verra le futur.
Violette, même question, naviguer à côté de Jean Le Cam, avec Jean Le Cam ?
Bon, on a déjà navigué pas mal de fois ensemble déjà sur les entraînements, mes premiers entraînements, c'est Jean qui m'a dit « allez, viens ». Bien, et puis dès le début, il me dit « Allez, tu fais la manœuvre, tu fais le virement, t'inquiète, ça va le faire de mes premières naves en IMOCA. » Donc oui, on est capable de naviguer ensemble. Après, c'est sûr que là, on vient tout juste d'arriver. J'ai besoin de faire le point sur plein de choses pour préparer l'avenir.
On va parler de vos projets dans un instant, notamment avec les enfants qui nous appellent très nombreux. Merci infiniment, Jean Le Cam, d'avoir été avec nous en direct des Sables d'Olonne aujourd'hui. Lucette nous appelle de Paris. Bonjour Lucette.
Oui, bonjour.
Je crois que vous aviez une question pour Violette Dorange.
Oui, bonjour à Violette. Tout d'abord, je voulais la féliciter pour son beau parcours autour du Vendée Globe. Alors moi, j'ai eu l'impression qu'elle a fait tout ça avec une maîtrise de la réflexion, de l'intelligence. Mais je voulais savoir si, par moment, elle a utilisé de l'intuition hein, dans des moments difficiles ou dans des moments plus fun hein, pour faire un petit peu de régate. Voilà, c'était ma question.
Merci Lucette. Violette Dorange, la place de l'intuition dans vos choix.
Bonjour Lucette, il y a beaucoup de place pour l'intuition en mer parce que on a des systèmes qui nous permettent de calculer les routes. C'est les routages vraiment qu'on fait en fonction des systèmes météo. Mais parfois les systèmes météo sont pas d'accord et dans ces cas-là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, mais dans tous les critères, il y a aussi l'intuition de se dire là, je le sens pas, ou là, ça peut le faire. Et je pense que l'intuition, elle s'affine vraiment avec l'expérience. Et des fois, je me trompe. Hein. Des fois, mon intuition, elle est pas bonne du tout. Notamment au Cap Horn, où je me suis dit, tiens, ici, je pense que là, je le sentais pas, cette tempête. Et au final, les conditions ont été moins fortes que prévues.
Vous avez des regrets? Vous dites, j'aurais dû y aller?
J'ai pas de regrets parce que c'est dur de refaire la course. Enfin, c'est on ne sait pas. Et puis, trois jours après, j'ai eu ma voile qui est tombée dans l'eau. Donc, ça se trouve, j'aurais été dans une situation encore pire. Enfin, c'est dur de refaire. Donc, je peux pas regretter. Mais par contre, je sais que ça peut-être c'était une erreur parce que du coup, ça m'a fait perdre quand même trois jours et ça m'a fait décrocher des bateaux à dérive. Donc, c'est très très dur de savoir si. C'est dur de refaire la course. Mais en tout cas, voilà, la part d'intuition, elle est super importante et je pense qu'elle s'affine avec l'expérience.
Vous aviez-vous un bateau à dérive quand d'autres plus rapides avaient des bateaux avec des foils, ce qui explique aussi la différence de vitesse entre les différents bateaux. Jean Le Cam, qui est à vos côtés, avait lui un bateau à dérive également. Raphaël nous appelle de Saint-Nazaire. Bonjour Raphaël. C'est à toi Raphaël, mais oui c'est à toi.
Bonjour
Raphaël, quel âge as-tu ?
9 ans.
Est-ce que tu as suivi le tour du monde de Violette Dorange ?
Oui.
Comment est-ce que tu l'as suivi ? Comment est-ce que tu l'as suivi ce tour du monde, Raphaël ?
Sur Internet avec papa.
Sur Internet avec ton papa. Tu avais, je crois, une question ? On t'écoute, Raphaël.
Quel est son plat préféré ? Quel est son plat préféré quand elle est arrivée sur Terre ?
Ah, le plat qu'elle a mangé en arrivant sur Terre. On va lui poser les deux questions. Merci beaucoup, Raphaël. Violette Dorange, le plat préféré en arrivant sur Terre et puis peut-être aussi le plat préféré en mer.
Alors, le plat préféré en mer, je pense que c'est... Moi, je suis un bec sucré et je pense que les petits brownies au chocolat en dessert, c'était vraiment mon petit truc, mon petit kiff. Et puis après, je pense que mes plats préférés en rentrant, hier, j'ai tout simplement demandé des raviolis, des pâtes toutes simples avec de la salade. Ce qui me manque, c'est les fruits et légumes.
Elles étaient bonnes, ces pâtes ?
Oui, c'est. J'ai juste retrouvé les saveurs des produits frais et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à l'arrivée.
Beaucoup d'enfants nous appellent. Gabin et Alexis sont en ligne avec nous. Bonjour à tous les deux, vous m'entendez bien ?
Oui.
C'est Gabin ou c'est Alexis ?
Gabin.
Bonjour Gabin, je crois que tu as une question.
Oui.
Vas-y.
Bonjour Jeannette, bravo pour cette course. Est-ce que vous avez envie de refaire un Vendée Globe ?
Bonjour Gabin. Pour te répondre tout simplement, oui, je pense que j'ai envie de continuer. J'ai besoin de réfléchir un petit peu pour savoir quel projet je veux mener, mais c'est vrai que j'ai adoré ce tour du monde et j'aimerais sûrement faire un deuxième.
C'est sûr ?
Bon, sûrement.
C'est
quasi sûr.
Ça veut dire qu'il commence aujourd'hui ce deuxième Vendée Globe ?
Oh non, là, c'est surtout le repos qui commence. C'est profiter de tout ça, me poser, retrouver mes proches. On va y réfléchir un petit peu plus tard.
Ça va être ce qui va vous occuper dans les prochaines semaines, maintenant, ou dans les prochains mois, Violette Dorange. Avant de se quitter, dans une minute, maintenant, on aura l'occasion de se retrouver, évidemment, dans ce 13-14, parce que nous sommes liés pour les années qui viennent. Chère Violette, je voudrais qu'on écoute un morceau de Billie Eilish qui vous a accompagné durant ce tour du monde. Ça vous rappelle des souvenirs, et quels souvenirs ?
J'ai mis cette musique pour mon arrivée. Enfin, mon équipe a choisi cette musique. Et Billie Eilish est un petit peu la chanteuse que je suis, qui a le même âge que moi, qui a une carrière incroyable à son âge. Et c'est la musique de l'arrivée sur les pontons. Elle me fait toujours un peu pleurer, cette musique. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions.
On se retrouvera dans ce 13-14 Violette d'Orange.
Bah, j'espère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir relayé cette aventure, et c'était vraiment très chouette de faire ça avec vous, France Inter, et merci à toute l'équipe. Merci Jérôme.
Merci à tous les auditeurs aussi qui vous ont suivis fidèlement. Je voudrais remercier Sarah Claudel dans votre équipe qui nous a permis de diffuser ces notes très régulièrement et d'être le lien avec vous. Et aujourd'hui au Sable d'Olonne à la technique, Hélène Langlois et Olivia Branger. Merci également à Alain Fauché, notre chargé des opérations extérieures. 13h54 sur Inter. Et c'est la suite, on n'oublie pas, de notre journée spéciale consacrée à l'intelligence artificielle, avec toute cette semaine notre reporter Laurélie Carive qui nous emmène à Chartres, au sud-ouest de Paris, département d'Eure-et-Loire. La municipalité y mise beaucoup sur l'IA. Le maire LR, Jean-Pierre Georges, 71 ans, est informaticien de formation. Il a été le premier élu à revendiquer haut et fort utiliser le logiciel ChatGPT pour écrire un discours. C'était en 2023 pour les commémorations du 8 mai 1945. Il nous raconte.
Je me suis un peu amusé parce que on utilisait ChatGPT depuis un certain temps. On n'avait jamais fait de discours. On n'avait pas. C'était une improvisation. Mais comme j'avais cassé mon bras, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un gag.
On va écouter si vous voulez bien.
Vous...
Alors attendez.
Pour écrire cet hommage aux femmes et aux hommes qui ont donné leur vie et ont payé le prix du sang, j'ai demandé de l'aide. Avec mon bras malade, il m'était difficile d'écrire. Alors j'ai engagé une discussion avec une entité nouvelle qui ne sait pas ce qu'est ni la chair, ni le sang. Un esprit sans âme, une intelligence artificielle.
Pas mal.
Oui, j'ai écrit ces quelques mots en invitant ChatGPT à rendre hommage à ce qu'elle ne pourra jamais être et à courber la tête devant ceux qu'elle ne pourra jamais ni imiter ni égaler. Voici le résultat. Ce jour de la victoire en Europe est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité.
Le texte, il est banal, il y a de la redondance.
Hommage à la bravoure et au sacrifice des
soldats. Le rendu, il n'est pas si bien que ça, quoi. Donc ça, je le sais, je le sens, mais j'ai voulu lancer ça. J'ai voulu montrer ce que c'était comme ça, brut de fonderie.
Ce discours-là, c'était en 2023, donc plus d'un an et demi.
Ouais.
Depuis, est-ce que vous continuez à utiliser ChatGPT pour vos discours, par exemple ? Et si oui, comment ?
Alors maintenant, ce qu'arrive à faire le cabinet, c'est que pour les moments où il y a besoin de discours, eh bien GPT va le mettre dans une forme où moi, j'aurai une facilité à le lire.
C'est-à-dire que vous avez entraîné ChatGPT à... écrire vos propres discours.
Exactement. Il intègre ma personnalité, vous voyez, mes mots, l'intonation, non, mais le rythme. C'est-à-dire que les phrases sont construites de telle façon que je puisse les dire facilement. Donc voilà, on lui apprend à connaître parfaitement Jean-Pierre Lorge. Dans l'appellation, moi, on m'appelle JPG, quoi, vous voyez. Donc maintenant, c'est plus ChatGPT, c'est ChatJPG.
Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, mais du coup, vous n'écrivez plus vos propres discours, mais il faut peut-être préciser que de toute façon, c'est vraiment le cas.
D'abord, j'en écris pas beaucoup. De toute façon, la matière qui est dedans, c'est moi qui la donne. Même mon directeur de cabinet, si je lui demande d'écrire un discours, avant, on se voit, qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui dis, voilà. Après, le littéraire, il met en place, mais GPT, il va très très vite à le mettre en place.
Et vous diriez aujourd'hui que tous les élus, les maires, utilisent ChatGPT, même s'ils ne le disent pas forcément ?
Oui. Pour arrêter l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il y a de gênant de dire... Quand on s'est fait aider par un outil, non, je pense qu'il faut être quatre sur table là-dessus. Alors, pour moi, vous savez, l'IA, c'est l'égalité des chances. Parce que vous pouvez avoir des gars qui sont très intelligents, mais pas suffisamment instruits pour expliquer les choses, parce que, il y a tout un tas de techniques. Et quelqu'un d'intelligent, il va pouvoir savoir discuter avec l'IA, et l'IA va lui faire un produit qui va correspondre bien à ce qu'il pense, lui, Et ça va un peu niveler tout ça. Celui qui est intelligent mais moins instruit sera à égalité avec celui qui est peut-être plus instruit mais moins intelligent. Donc c'est de l'égalité des chances, l'intelligence artificielle.
Le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, Chartres, où nous serons à nouveau demain pour la suite de ce feuilleton. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Intelligence artificielle aussi dans la Terre au Carré.
Oui, avec bien sûr l'impact environnemental de cette technologie.
À tout de suite.